France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Comment mieux se déplacer? Tiens, ça va résonner avec ce que vous venez de nous expliquer sur le voyage de Greta Thunberg, Jacqueline. Comment organiser nos mobilités collectives et individuelles à l'avenir en essayant de se passer peut-être un peu du moteur thermique? Le débat est d'importance alors que dans quelques années seulement, la pollution de l'air dans les centres urbains deviendra la première cause de mortalité liée à l'environnement. C'est l'OCDE qui l'explique. Dans un contexte de tension sur l'approvisionnement en énergie et en gardant en tête les problématiques sociales liées à la question des transports, comment imaginer une meilleure optimisation des réseaux pour le travail et pour les loisirs? Quels progrès technologiques nous permettraient de réussir cette gageure, consommer moins sans renier aucune liberté, ni créer de nouvelles inégalités? Alors qu'on s'attend sur les routes de France à quelques journées noires dans les jours qui viennent et que le projet de loi d'orientation sur les mobilités doit revenir à l'Assemblée le 10 septembre, à l'occasion de l'ouverture de la prochaine session extraordinaire du Parlement, nous abordons ces questions aujourd'hui avec nos invités. Bonjour Philippe Duron.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes coprésident de l'association Transport Développement Intermodalité Environnement, également conseiller municipal de Caen et conseiller communautaire de l'agglomération Caen-la-Mer. Et au téléphone avec nous, Laurent Castagnède, bonjour.
Bonjour.
Ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris, vous avez publié l'an dernier aux éditions Éco-Société, Hervor ou la face obscure des transports. J'ai envie de vous demander à tous les deux si vous validez le transport, le voyage de Greta Thunberg vers New York en voilier émission zéro carbone. Philippe Duron, peut-être pour répondre à ce que disait Jacqueline Fardel.
Bien sûr, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça montre qu'il y a des alternatives aux manières de se déplacer. C'est une façon aussi emblématique de poser les problématiques du changement climatique de façon très forte. Mais bien évidemment, de là au transport du quotidien que nous connaissons aujourd'hui, il y a tout un pas à franchir, il est considérable. Et c'est, je pense, le sujet de notre conversation de ce matin.
Exactement. Laurent Castagnède, sur ce voyage transatlantique.
Sur ce point, je pense que ça interroge notre rapport à la vitesse et notre rapport au temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a abandonné le Concorde, pour les raisons que l'on connaît. Certains pourraient penser que c'est une prise de conscience sur les excès de la survitesse. Et en fait, c'est complètement faux, puisqu'il y a plein de projets de supersonie qui sont à l'œuvre et qui veulent relancer le trajet Europe-New York, on va dire. Donc on n'a pas fini finalement de couper le cordon ombilical avec la quête de vitesse, je pense qu'on en parlera, qui est une des grosses illusions finalement, notamment du début du XXIe siècle, de croire qu'en allant plus vite, on sera plus heureux et plus libre.
C'est effectivement une des thèses que vous développez dans votre livre Hervor, Laurent Castagnède. Alors, on s'en parle là, quand on parle de mobilité, de transport, d'un sujet qui touche à des questions économiques, sociales, sociologiques, on peut parler aussi de santé, d'économie, de souveraineté nationale en ce qui concerne l'approvisionnement en énergie. Sujet donc complexe. Quand on le prend dans sa globalité, Philippe Duron, ça mériterait un grand débat juste pour ce sujet des transports.
Mais écoutez, le grand débat, il a eu lieu. Ça a été les assises de la mobilité il y a un an et demi. C'est de ce grand débat qui est sorti la loi d'orientation des mobilités cette année. Alors, bien évidemment, le débat a, je dirais, évoqué des sujets très nombreux, à avancer des solutions aussi très nombreuses. La loi est un peu plus restrictive dans la mesure où elle agit aussi dans le contexte d'un département ministériel et où elle agit dans la contrainte également financière qui est celle de notre époque. Mais bien sûr, élaborer une politique de transport, c'est quelque chose de très complexe car il faut prendre en compte, comme vous l'avez dit, des sujets extrêmement variés, et notamment le sujet économique. Pendant 30 ans, ou même plus, pendant un demi-siècle, l'économie française s'est beaucoup appuyée sur l'industrie automobile, avec l'ensemble de ses sous-traitants. Aujourd'hui, il faut probablement changer cela. Mais ça veut dire aussi que on remet en cause un des fleurons de l'économie française, on remet en cause des problématiques d'emploi dans le pays. Donc, vous voyez, on touche à des choses très sensibles. Quand on agit sur les coûts, par exemple, du carburant, pour essayer de donner un signal prix, comme l'on dit, eh bien, on a des phénomènes de
protestation,
de résistance sociale, et l'affaire des Gilets jaunes nous en donne l'illustration.
Les bonnets rouges aussi, avant.
Les bonnets rouges sur la taxe carbone, bien évidemment. Il faut faire la preuve de beaucoup de pédagogie, mais on sent bien que les comportements, ça ne change pas à la vitesse des décisions ministérielles. Il faut ici faire preuve, j'allais dire, de pédagogie, de temps, et puis accompagner les mutations. Vous ne ferez rien sans un accompagnement à la fois économique, sans un accompagnement social, sans un accompagnement financier.
Ouais, la loi sur l'orientation, la loi d'orientation sur les mobilités, comme elle s'appelle, prévoit notamment de permettre de se déplacer à travers tout le pays sans avoir besoin de voiture individuelle. Ça paraît, même cet objectif-là paraît paraît lointain.
Si vous voulez, là on retrouve un débat qui n'est pas tout à fait nouveau. Hein. Ce débat sur le changement de politique, il a été initié notamment dans la loi Voynet de 1999 qui prévoyait des schémas de services collectifs des mobilités et qui voulait plutôt développer le service par rapport à la politique d'infrastructure. Ça a été aussi un sujet mais qui a été pris différemment dans le Grenelle de l'environnement avec Jean-Louis Borloo il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, hein, mais qui lui a souhaité développer des grandes infrastructures ferroviaires. Ça a été bien évidemment les 4 LGV qu'on a vus récemment. Mais je veux dire aujourd'hui là, une des nouveautés, elle n'est pas spectaculaire mais elle est très importante, c'est la décision de créer des autorités organisatrices de mobilité sur l'ensemble du territoire, qu'il n'y ait pas d'impensé de la mobilité. Hein, sur l'ensemble du territoire.
L'idée serait de mettre à contribution les intercommunalités, mais on va revenir là-dessus. Il y a des problèmes aussi politiques qui se posent, et
bien
financiers
des
notamment.
Des problèmes politiques et des problèmes budgétaires. Et
vous êtes bien placé pour le savoir à Caen. Laurent Castagnède, est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu? Là, on parlait avec Philippe Durand d'un champ lié à l'environnement. Quand on parle de transport, on parle évidemment d'environnement, mais il y a aussi la question sociale qui est extrêmement importante. C'est peut-être sur ce plan-là qu'on peut prendre différemment les enjeux liés à la mobilité. En voulant gagner du temps, vous expliquez qu'on a rallongé les distances et on est tombé dans un piège. Finalement, la vitesse nous a fait tomber dans un piège et a fait tomber notamment dans un piège des classes sociales peut-être plus à même de protester quand on augmente le prix de l'essence.
Le piège, il est à la fois dans la vitesse qu'on a augmenté et on a cru que ça allait nous faire gagner du temps, mais le piège est aussi dans la baisse des coûts, en fait. Et le débat dont vous parlez, on parle de la loi de mobilité depuis plus d'un an, mais en fait, le débat sur le sujet, il existait déjà dans les années 30. En fait, dans les années 30, vous aviez l'essence qui était beaucoup plus taxée qu'aujourd'hui, et les associations d'automobilistes se plaignaient qu'elle le fût beaucoup trop. Et donc, il y avait l'équivalent de la Cour des comptes qui avait lancé des études pour voir finalement comment était financé le transport en France dans les années 30. Et on s'est rendu compte que malgré des très nombreuses taxes et impôts qui étaient beaucoup plus nombreux, il y en avait une dizaine à l'époque par rapport à aujourd'hui, nombreux et forts, on s'est rendu compte qu'en fait, le transport était déjà à l'époque sponsorisé, alors qu'on ne considérer que le coût des infrastructures par rapport aux récoltes, aux recettes de l'État sur les taxes. Et donc la conséquence, c'est qu'il aurait fallu, pour équilibrer les comptes dans les années 30, augmenter le prix de l'essence qui était déjà très cher. Et dans les années 60, ce débat est réapparu. Vous avez des études d'Alfred Sauvy, notamment, sur le sujet. Est réapparu, et aujourd'hui, la situation est encore pire, en fait, parce qu'on n'a pas que les dépenses d'infrastructure qui sont prises en charge par la collectivité, mais aussi des dépenses de sécurité sociale liées aux maladies et aux décès qui sont liés à la pollution de l'air des transports, et aussi, il faudrait provisionner de l'argent pour le changement climatique, en fait, pour l'adaptation au changement climatique. Donc, en fait, on est dans un système dans lequel il y a une efficacité technique, effectivement, qui a fait d'énormes progrès, mais qui s'est doublé depuis un siècle, à peu près, d'un soutien économique de la part de l'État. Et c'est ça aujourd'hui, finalement, qu'il faudrait remettre en question. Alors que socialement, on est dans une situation de dépendance, notamment d'une catégorie de population qui se trouve loin des bassins d'emploi, loin des lieux de commerce, loin des services publics, et qui s'est installé loin et qui voit cette distance s'éloigner au fur et à mesure, et pour qui la voiture est une nécessité. Donc ces gens-là, dans cette dépendance, c'est un petit peu comme des gens qui seraient accros au tabac. Si on leur demande de fixer le prix des cigarettes, ils vont demander qu'elles soient hors taxe. Et c'est bien ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, et la réponse, justement, malheureusement, n'est pas de leur dire « il faut absolument vous mettre l'essence hors taxe ». La réponse, c'est qu'il faut qu'on arrive à ralentir et à ne pas croire qu'en augmentant la vitesse des transports, on va résoudre le problème. Et le deuxième sujet, c'est qu'il va falloir qu'on augmente le coût des transports, et notamment individuels. Alors, ça nécessite évidemment des compensations pour que ces gens-là ne se retrouvent pas physiquement à la rue, finalement.
Vous nous dites qu'il faut augmenter le prix de l'essence. Laurent Castagnède, il faut retenter le coup pour peut-être éviter qu'à l'avenir, parce que le prix du pétrole augmentera probablement dans les décennies qui viennent, pour éviter qu'à l'avenir, peut-être une manne se constitue ailleurs qu'en France, alors qu'on pourrait peut-être la constituer aujourd'hui ici même.
L'objectif qu'on a, c'est de rapprocher, de raccourcir les distances. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, le Français moyen, il est à 15 km à peu près de son lieu de travail, par exemple, si on prend le domicile travail. Si on baissait le prix de l'essence, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une expérience à très grande échelle qui est menée depuis plus d'un siècle, ça s'appelle les États-Unis. Et là-bas, la distance domicile-travail avec une essence qui est quasiment hors taxe, on va dire, elle est très peu taxée depuis l'origine, hein, depuis la fin du 19e siècle, elle est quasiment pas taxée. Mais là-bas, le trajet domicile-travail est 5 km plus éloigné que chez nous. Et les véhicules sont une demi-tonne plus lourds que chez nous en moyenne, ce qui est finalement énorme. Donc, baisser le prix des carburants, voilà à quoi cela conduirait. Donc, ça veut dire que la solution, c'est de ralentir et renchérir. Et évidemment, renchérir, ça signifie des recettes supplémentaires pour l'État, que ce soit par le biais de vignettes ou de taxes sur le carburant. Et à ce moment-là, cet argent-là permettrait de soutenir les personnes et les entreprises d'ailleurs, qui sont installées dans des distances très importantes pour chercher à les réduire, ce qui signifie du déménagement par exemple, hein, du déménagement soit d'individus pour les rapprocher de leur lieu de travail, soit déménager des lieux de travail, ça s'appelle la décentralisation mais à une échelle de masse, pour rapprocher le travail des gens finalement. Mais ça, là on parle du domicile travail, mais la question se pose exactement de la même façon pour le commerce et les services.
Et vous préconisez notamment le retour des commerces ambulants, Laurent Castagnède, dans votre livre.
Par exemple, c'est vrai que les commerces ambulants, il faut se dire, dans les années 50-60, donc les transports étaient plus chers qu'aujourd'hui naturellement parce que moins efficaces techniquement. Et pourtant, certaines personnes se souviennent bien du boulanger qui faisait sa tournée, par exemple. Et lui, finalement, il était motorisé. Aujourd'hui, le boulanger, il est presque pas motorisé. C'est tous les clients qui individuellement se motorisent pour aller chercher leur baguette ou leur pain. Et donc, dans un monde bas carbone qui a peu d'énergie, on a quand même des transports itinérants. On avait des transports itinérants. Donc c'est certainement une partie de la solution.
Philippe Buron, là-dessus.
Ce que vient de dire assez justement, d'ailleurs, Laurent Castagnède. La première remarque, c'est qu'on a déjà fait un choix politique depuis 2 ans, hein, en faveur non plus de la grande vitesse et des déplacements entre les grandes agglomérations, mais en faveur des transports du quotidien. Vous savez, le président de la République à Rennes, lorsqu'il a inauguré les 2 LGV atlantiques, a indiqué « ça sera ma dernière inauguration de LGV, demain la priorité sera au transport du quotidien et à l'amélioration, à la modernisation des infrastructures existantes ». Donc, on a fait un pas. Ensuite, deuxième élément, ce que souligne Laurent Castagnède montre qu'on a abandonné une politique très importante en France. Cette politique, c'est celle de l'aménagement du territoire. À partir de 2002, hein, on a fait le choix de la compétitivité des territoires. Et la compétitivité des territoires, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est les plus puissants, les plus forts qui l'emportent. C'est à dire les métropoles, notamment. Hein. Et bien évidemment, il y a une dévitalisation, notamment industrielle des petites villes, on l'a vu avec la crise de 2008, qui pâtit et qui oblige les salariés à aller de plus en plus loin pour trouver du travail. Enfin, il y a un troisième élément sur lequel on n'intervient pas suffisamment, dont on ne parle pas assez, c'est la question de la politique foncière et immobilière dans ce pays. Pourquoi est-ce que les gens vont de plus en plus loin? Parce que le foncier dans les villes est de plus en plus élevé. Ils ne peuvent plus accéder et à la propriété, ouais, et même au logement.
C'est aussi une conséquence, c'est ce que nous a expliqué Laurent Castagnède.
Et donc, il est absolument nécessaire de revenir à des politiques structurantes, hein, en matière d'aménagement du territoire, de relocalisation des entreprises, il l'a dit, de circuits courts, mais aussi, bien évidemment, une politique qui permette d'aller vers une maîtrise des coûts du foncier. Il y a des villes qui ont commencé à travailler sur ce sujet depuis longtemps, je pense notamment à la ville de Rennes.
Alors cette loi d'orientation sur les mobilités, vous parliez tout à l'heure de l'installation qui y est prévue d'une autorité organisatrice de la mobilité, oui. Ça serait les intercommunalités. Le Sénat vient de dire attention, il y a un problème de financement quand on parle de l'organisation dans un maillage très fin, et finalement c'est peut-être une des solutions, mais encore faut-il le financer, Philippe Buron. Ça c'est vraiment un gros souci.
Bien évidemment, sauf qu'on ne va pas installer des métros partout dans les intercommunalités rurales. Donc il y a des solutions plus légères qui peuvent être mises en place. Et puis, la loi prévoit aussi qu'il peut y avoir une substitution, hein, lorsque les intercommunalités ne sont pas en capacité de le faire. Elles peuvent, je dirais, se retourner vers la région qui est le chef de file en matière de mobilité. Donc ici, il y a d'abord à faire des diagnostics, hein, sur les besoins de mobilité. Et ensuite, eh bien, il faudra trouver, c'est vrai, des moyens de financer des politiques alternatives, mais elles ne sont pas forcément des politiques extrêmement coûteuses. Lorsqu'on est dans le rural diffus, hein, eh bien, on n'a pas les mêmes, je dirais, outils pour traiter les besoins de déplacement de la personne âgée isolée, du jeune qui doit aller en formation.
C'est de la navette sur demande, des bus.
Navettes, il peut y avoir des choses qui coûtent de l'argent, mais qui sont plus faciles à financer que ce qu'on a dans les grandes agglomérations.
Vous avez évoqué tout à l'heure, Philippe Durand, le problème de la mise en concurrence des grandes agglomérations. Ce terme de concurrence, il est important. Il va y avoir l'ouverture à la concurrence de la SNCF, du transport ferroviaire, notamment sur les petites distances, pas uniquement sur les grandes lignes. Ça, est-ce que ça va pas poser un problème? Est-ce qu'on n'a pas déjà un problème d'équité dans l'accès au train, pour l'accès au train? Il y a le yield management de la SNCF dont on pourrait parler, des coûts qui n'ont plus rien à voir finalement avec des prix de billets qui n'ont plus rien à voir avec un service public parfois.
Oui, alors bon, la question de la concurrence, j'allais dire que c'est pour nous quelque chose de surprenant, c'est pour nous quelque chose de choquant pour un certain nombre de nos concitoyens. C'est une inquiétude pour les cheminots, mais ça fait 20 ans qu'elle existe dans la plupart de nos voisins européens, hein. Et ce qu'on a constaté, c'est que souvent ça avait conduit à une amélioration du service ferroviaire. Le Royaume-Uni, qui est très critiqué notamment à cause du coût des transports, hein, voit chaque année le nombre d'usagers du train augmenter de 5%. L'Allemagne, qui avait vu des lignes fermées assez nombreuses, voit ces lignes se réouvrir parce qu'un certain nombre de sociétés sont en train de les réexploiter. Mais, si vous voulez, quand on regarde l'ouverture à la concurrence, en France, les autorités organisatrices de transport du quotidien, ça ne sera pas les sociétés privées, ça restera les agglomérations ou les régions pour les TER. C'est elles qui vont... alors, on le fait déjà dans les agglomérations. La plupart des transports publics dans les agglomérations se font sous forme, j'allais dire, d'un partenariat entre le privé et le public.
Mmh. Et quelques régions sont assez impatientes.
Il y a des régions qui sont impatientes parce qu'elles ont un fonctionnement ferroviaire qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elles peuvent attendre et dont les coûts sont aujourd'hui extrêmement difficiles. Le transport est devenu, dans certaines régions, la première dépense de la collectivité, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans ou il y a 15 ans quand on a transféré les TER. Donc il ne faut pas diaboliser, moi je crois, l'ouverture à la concurrence, simplement il faut la maîtriser. Et demain, alors en dehors de ce qui est, j'allais dire, en open access comme on dit, c'est-à-dire les LGV, des choses comme ça, où là c'est le marché qui va jouer, mais pour ce qui est des collectivités territoriales et notamment des régions, c'est les régions qui fixeront, qui détermineront ce qu'elles veulent ouvrir à la concurrence, c'est les régions qui détermineront le prix du billet et la politique tarifaire. Donc sur ce sujet, pas de panique.
Dans la loi d'orientation sur les mobilités, il est également question d'assouplir cette règle des 80 km/h qui a tant fait parler aussi d'ailleurs les Gilets jaunes. Laurent Castagnette, ça va vous faire réagir, de rétribuer les trajets en vélo, les trajets domicile-travail, de faciliter le covoiturage, il faut voir comment, d'encadrer l'utilisation des trottinettes de manière peut-être plus anecdotique en ville et dans les grandes agglomérations. Toujours rien, en revanche, sur la taxation du transport aérien, même si là, récemment, une taxe s'est rajoutée sur les billets d'avion. En gros, Philippe Castagnette, on essaye de faire monter les solutions alternatives, tant bien que mal, mais on fait pas vraiment baisser les consommations polluantes.
C'est-à-dire, en fait, je pense qu'on s'attaque pas au véritable sujet. Hein. On prend des mesurettes sur des sujets annexes autour de cela. Oui, si vous voulez qu'on parle du transport aérien, le transport aérien, lui, il est étonnamment détaxé au niveau mondial. Alors ça remonte aux années 40, hein, en fait. Il y a eu 1944 la convention de Chicago qui a détaxé le carburant qui arrivait dans les pays, donc ce qui restait dans les avions lorsqu'ils atterrissaient, et qui a créé l'OACI. L'OACI, quelques années plus tard, en 1951, a pris une résolution qui a été unanimement retenue. Qui disait que le carburant aérien devait être détaxé au départ. Donc finalement, depuis 1951, le carburant est détaxé. L'origine de tout cela, en 1944, c'est le fait de sortir d'un conflit mondial qui se répétait tous les 30 ans, finalement, et de se dire il faut absolument que les grandes de ce monde se rencontrent facilement pour pouvoir diminuer le risque qu'on se refasse la guerre encore dans 30 ans. Donc cet objectif est parfaitement louable, et la décision de l'époque, je pense qu'il n'est absolument pas à la remettre en question à l'époque. L'ennui, c'est que de 1950 à 2000, le trafic aérien mondial a multiplié par 100, et depuis 2000, il a encore multiplié par 2,5. Donc on a 250 fois plus de trafic passager qu'en 1950 aujourd'hui. Et aujourd'hui, la plupart du trafic aérien, c'est du tourisme. du tourisme au sens large, aller voir les amis aussi, ainsi que les trajets religieux. Donc le tourisme qui a emporté la mise aujourd'hui a fait que le transport aérien, c'est à peu près 5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, à la fois les carburants et puis la vapeur d'eau, les traînées blanches, et c'est en croissance de 5% par an. Donc on a un véritable problème au niveau mondial. On a besoin de, finalement, de taxer en fait le transport aérien, c'est une évidence. On parlait tout à l'heure des voitures qui étaient insuffisamment taxées. Le transport aérien, je vous en parle même pas. Donc on a un énorme souci, et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que les compagnies, malgré cette croissance de 5% par an en moyenne, finalement, les compagnies occidentales se font largement concurrencer et crient et aimeraient finalement presque une croissance à deux chiffres pour pouvoir survivre. Donc c'est tout cela est très étonnant, mais il y a une véritable question à se poser sur notre capacité à être ultra mobile. Et dans un monde où on a besoin de diminuer les pollutions.
Et la taxe sur ces billets là, qui a été décidée par le Conseil de défense écologique, pour vous, c'est peanuts?
Bien sûr, bien entendu. On ne parle que de quelques euros. On parle de, on va dire, 1,50 € à 15 ou 18 euros. Mais en fait, en général, ce sera 2-3 euros par prix du billet. Ça ne va véritablement rien changer aux gens qui ont envie de voyager aujourd'hui, qui peuvent voyager pour pas très cher. Il est évident que ça ne va rien changer. L'ordre de grandeur dont on parle, l'essence aujourd'hui, par exemple, l'essence routière, elle est vendue deux fois plus cher que son prix hors taxe, et on considère dans les calculs finalement que ce n'est pas assez.
Ouais, on parlera de la question des coûts relatifs des différents modes de transport. On va se retrouver, Laurent Castagnède, n'ayez crainte, juste après le journal de 8h avec Philippe Duron aussi.
France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Comment mieux se déplacer, comment organiser nos mobilités collectives, individuelles, maintenant et dans le futur, en essayant de se passer un peu du moteur thermique. On a fait le constat tout à l'heure avant le journal d'une situation problématique. On est trop gourmand, la décarbonation de nos transports ne va pas assez vite. Il faut dire que un tiers à peu près des émissions en France de CO2 sont dues au transport. Il est pourtant possible d'imaginer rationaliser ces transports. La loi d'orientation sur les mobilités l'ambitionne en tout cas. On voit ça avec nos invités ce matin. Philippe Duron, coprésident de l'association Transport, Développement, Intermodalité et Environnement. Il est avec nous en studio. Et puis au téléphone, Laurent Castagnède, auteur aux éditions Éco-Société de Hervor ou La face obscure des transports. On s'est quitté tout à l'heure avant le journal de Maxime Fayolle sur la question des coûts de l'avion. Alors ça, c'est très intéressant. L'avion, le train, il faudrait privilégier le train si on voulait faire baisser évidemment les émissions de CO2. Récemment, un député de la France Insoumise, François Ruffin, proposait de supprimer d'interdire les lignes intérieures quand une solution alternative en train existe. Et il y a de nombreux cas qu'on peut souligner, Paris-Marseille, Paris-Toulouse, il y en a bien d'autres. Sur cette proposition, Philippe Duron, elle a fait beaucoup réagir, hein, cette proposition. On sait que la nouvelle ministre des Transports, Elisabeth Borne, est plutôt favorable à l'avion, ou en tout cas elle l'était. Quelle est votre position?
Je crois qu'il faut regarder les choses au cas par cas. La suppression d'une ligne aérienne, ça s'est fait. Ça s'est fait entre les Pays-Bas et Bruxelles, alors qu'il y avait effectivement Thalys qui remplissait parfaitement ce rôle de liaison intercapitale. Vous pourriez le faire entre Paris et Marseille, parce que vous avez une LGV. Entre Toulouse et Paris, c'est pas vrai. Parce qu'entre Toulouse et Paris, l'offre ferroviaire n'est pas à la hauteur des besoins. Il faut 7h, 8h pour aller à Toulouse par le train.
Mais c'est un cercle vicieux, c'est ça le problème, et donc, Philippe Duron. C'est qu'on est effectivement obligé de prendre l'avion quand on veut aller à Toulouse.
Et bien évidemment. Et quand Elisabeth Borne dit qu'elle veut favoriser l'avion, c'est pas favoriser l'avion d'une façon générale. C'est le favoriser au profit d'un certain nombre de petites villes qui n'ont pas d'alternative à ça et qui ont besoin de mobilité pour développer le système économique, pour faire en sorte qu'elles survivent, qu'elles aient un peu d'oxygène. Donc, le problème du kérosène, la taxation du kérosène dont on parlait, c'est un problème dont on parle depuis longtemps. Moi, j'ai présidé plusieurs missions, Mobilité 21, aujourd'hui de COI, et on a essayé de taxer le kérosène. Mais Bercy nous a toujours répondu qu'on ne pouvait pas le taxer dans un seul pays, sauf à mettre en danger les compagnies aériennes françaises. Donc, il faut avoir une action internationale extrêmement forte pour arriver à faire bouger ces choses. Ce qui se passe au niveau européen commence à montrer que c'est peut-être possible au niveau, en tout cas, de l'Union. Mais il faudra aller plus loin parce que la croissance du trafic aérien, aujourd'hui, elle est moins en Europe qu'en Asie. Hein, et c'est de là que le risque peut venir. On peut faire tous les efforts que l'on souhaite, et ils sont nécessaires, et ils sont importants, mais bien évidemment, il faut que ces efforts soient partagés par d'autres. Et puis enfin, sur l'avion, on voit que les compagnies, les constructeurs d'avions, aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, et les acheteurs d'avions, c'est des avions qui consomment moins, c'est des avions qui sont plus économes. Mais ça compensera à peine
l'augmentation à venir
de la demande.
Ouais. On va voir sur les solutions technologiques, parce qu'on en parle beaucoup. Individuellement, chaque mode de transport, on nous le présente comme étant de plus en plus économe. Et puis finalement, on se rend compte que finalement, globalement, voilà, les émissions continuent. Sur le point des lignes intérieures, Laurent Castagnède, entre l'avion et le train.
Oui, alors en fait, entre l'avion et le train, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la plupart des destinations, il n'y a pas de concurrence, en fait. Si vous voulez aller traverser un océan, vous n'allez pas prendre le train. Donc, le premier sujet qu'il faut arriver à comprendre, c'est notre relation entre le besoin de dépaysement et la distance. En fait, aujourd'hui, on s'est installé, avec le transport aérien pas cher, dans un tourisme de masse très éloigné. Et ce dont on a besoin, c'est de redynamiser, finalement, le tourisme interrégional. C'est-à-dire, finalement, que quelqu'un qui est en Europe, il est peut-être plus envie, parce qu'aussi il faudra que ce soit relativement facilité, d'aller visiter une autre région d'un pays limitrophe, plutôt que de prendre l'avion pour traverser un océan et aller dans des endroits qui sont massivement artificialisés, banalisés. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le dépaysement qu'on a aujourd'hui à 10 000 km, si vous voulez, il y a 30 ans on l'avait à 3 000 km et il y a 100 ans on l'avait juste dans le pays d'à côté.
Ouais. Ou même dans la région parfois d'à côté. Voilà. Mais comment faire évoluer les mentalités là-dessus? C'est ça qui va poser problème, Laurent Castagnède. Quel levier
On les a dégradés parce que justement les lieux de tourisme se sont uniformisés. Je pense que c'est ça la première raison. Alors ça, c'est sur la concurrence des destinations. Ensuite, effectivement, lorsque sur des trajets plus courts, effectivement, on a... Alors après, il faut se méfier sur les effets rebonds. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, le premier TGV Paris-Lyon, lorsqu'il a été décidé, d'ailleurs, étonnamment, il a été décidé en 1974, c'est-à-dire en plein choc pétrolier, officiellement pour faire des économies d'énergie en disant qu'on allait substituer des trajets aériens. En fait, tout cela, c'est surtout additionné. C'est-à-dire qu'on a finalement rajouté et empilé les trajets. Et après, un autre point important que vous avez dit, c'est la volonté de faire des avions plus économes. On va ensuite parler des solutions, mais ce qu'il faut voir, c'est que des avions plus économes ont un effet rebond qui augmente d'autant, en fait, le trafic. C'est-à-dire si demain, on inventait un avion deux fois plus économe, on pourrait penser, les constructeurs diraient, on va faire des économies d'énergie de moitié. En fait, c'est faux. Parce qu'en fait, le carburant représente entre un quart et la moitié du chiffre d'affaires des compagnies, ça dépend du prix du baril. Et donc, si elles économisent du prix du carburant, elles vont pouvoir baisser le prix des billets d'une proportion certes inférieure, mais augmenter l'assiette de la population qui va pouvoir prendre ces avions-là. Et finalement, à la fin, le trafic augmente. Donc finalement, la baisse des consommations des avions fait augmenter la consommation de kérosène, de manière globale. Donc la solution n'est pas forcément à rechercher. Ouais. Enfin, évidemment, on va chercher des avions plus économes, mais il faut absolument faire autre chose. Sinon, par effet rebond, on n'obtiendra rien du tout en termes de consommation globale.
Il n'y a pas une solution. Hein. C'est aussi le principe de l'élargissement de la rocade ou de l'agrandissement du parking. On pense que ça va limiter les bouchons, mais en fait, c'est l'inverse.
Mais contrairement à ce qu'a dit M. Castagnède, on va laisser dire qu'il y a eu empilement des solutions et des trafics. Quand on a décidé de faire la LGV Paris-Lyon, il y a eu une chute quand on l'a mise en service. Il y a eu une chute très importante, massive, du trafic aérien entre Paris et Lyon, même chose pour Strasbourg, même chose pour Marseille. Donc c'est efficace. Le report modal, quand il y a une solution alternative ferroviaire convenable à moins de 3 heures et demie du centre économique du pays, eh bien les choses fonctionnent.
Laurent Castagnède, là-dessus?
Aujourd'hui, on a plus de trafic aérien entre Paris et Lyon qu'à l'époque. Alors effectivement, sur l'instant, il y a eu un effondrement, mais finalement, quelques années plus tard, ça a été un empilement. Voilà, qu'on soit bien clair.
Pour les solutions, Laurent Castagnède, vous en proposez beaucoup dans votre livre Airvor.
Il y en a beaucoup qui doivent être abordées. Certaines, d'ailleurs, sont communes à l'ensemble des transports. Mais disons que sur l'aérien, pour moi, il y a trois grands sujets. Il y a le fait de... On a parlé de taxer lourdement. Alors la question, c'est à quelle hauteur faut-il taxer lourdement? On peut y revenir. Ensuite, le deuxième point, c'est faire des avions effectivement plus économes. Pour cela, il y aurait une mesure, d'ailleurs assez simple, entre guillemets, à mettre en place, c'est de limiter la vitesse des avions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites, on parle de trajets court-courriers, par exemple, qui sont faits avec des avions à réaction. C'est un peu comme si vous preniez un taxi pour aller à la gare de votre ville, et en fait, c'est une voiture de course qui arrive. Et là, vous dites, mais non, je veux simplement aller à la gare. Donc, avoir des avions à réaction sur des trajets de quelques centaines de kilomètres, c'est finalement un énorme gaspillage. Donc, on pourrait avoir des limites de vitesse qui ne rallongeraient que de quelques minutes le temps de parcours. Donc, quand vous incluez tous les temps dans les aéroports, c'est pas grand-chose proportionnellement. Donc on pourrait du coup redynamiser finalement des avions hélices bien plus modernes que les avions hélices qui prévalaient avant l'arrivée des avions à réaction bien entendu, mais des avions hélices modernes qui permettraient de chuter d'environ 30% la consommation au prix de quelques minutes de plus par centaine de kilomètres. Mais donc cette deuxième mesure, mais surtout la troisième qui me paraît être la plus importante, c'est de juguler le parc, c'est-à-dire de mettre en place l'équivalent, par exemple, de ce qui a été fait pour le logement, qui s'appelle le cadastre et la logique foncière, c'est-à-dire de l'appliquer au transport motorisé. On parle de l'aérien, mais c'est valable pour moi aussi pour l'ensemble des transports motorisés.
Incluant les voitures individuelles.
Oui, individuel aussi, c'est-à-dire que là, on parle de l'avion. C'est-à-dire qu'une compagnie qui voudrait se doter d'avions supplémentaires en les achetant, il faudrait qu'elle soit obligée de mettre à la casse des vieux avions de même capacité ou alors d'acquérir auprès de compagnies tiers qui s'en déferaient parce qu'elles déposeraient le bilan ou parce qu'elles voudraient limiter leur voilure, de racheter des droits de posséder des avions. Un petit peu que comme quand vous passez pour avoir un nouveau logement, vous ne vous installez pas sur un terrain vague. Vous passez chez un notaire pour acheter un rectangle sur un papier. Et là, ça serait pareil. Donc, on aurait la liste des avions qui serait fixée en termes de capacité et de nombre. Et du coup, à chaque fois qu'on mettrait en service un avion neuf, correspondrait la mise au rebut d'un avion ancien de même capacité.
Ça pourrait marcher sur les voitures individuelles, Laurent Castagnède, ce genre de mesure ? Sur des flottes ?
Oui, on peut très bien le faire pour la voiture individuelle aussi. On le fait bien pour le logement, si vous voulez. Conceptuellement, Napoléon l'a fait à partir du 19e siècle en créant les cadastres.
Et on pourrait, si on poursuit l'analogie avec le logement, imaginer des moteurs de voitures un peu plus remplaçables ou des voitures un peu plus réparables, c'est ça aussi, hein, Laurent Castagnède.
Oui, tout à fait. Alors dans le cas de l'aérien, on a les avions modernes font qu'ils mettent à la casse les avions anciens sans que ce soit les moteurs eux-mêmes qui soient que l'avion devienne trop polluant. Mais c'est vrai que dans le cas de la motorisation individuelle, des voitures, il y aurait un gros sujet à faire, c'est le sujet de la réhabilitation en fait des véhicules. Aujourd'hui, on propose notamment aux gilets jaunes de mettre à la casse leurs vieilles voitures en leur donnant quelques milliers d'euros pour qu'ils achètent une voiture neuve. Et eux, ils n'ont pas du tout envie de. Ils sont déjà souvent en surcapacité d'investissement. Donc ce qu'on devrait pour les voitures individuelles, c'est développer la réhabilitation. J'utilise volontairement un terme de bâtiment parce que ce terme n'existe pas dans le monde occidental des véhicules finalement. Il n'existe que dans les pays émergents.
Philippe Durand. Sur la remotorisation des flottes aériennes, il y a un très gros marché qui est en train de se développer, notamment Safran, qui est le grand groupe français de moteurs, s'est beaucoup positionné sur ce marché. Sur les voitures, il y a des marchés de niche qui commencent à se faire. Il y a des gens qui commencent à électrifier un certain nombre de voitures, on le voit, pour des petits modèles du style Méhari, mais aussi pour des voitures de sport. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de modèle économique, il n'y a pas encore de constructeur qui ait fait ce choix d'aller vers la remotorisation et par exemple le passage d'un moteur thermique à un moteur électrique sur leur véhicule. Ça, c'est probablement effectivement une piste puissante et qu'il faudrait essayer de développer.
Il y en a d'autres, Philippe Durand.
Oui, moi je crois qu'il y a des politiques structurelles qu'il faut développer. Parce que je crois beaucoup aux politiques d'aménagement du territoire. Je pense que sur ce sujet-là, il faut bien évidemment avancer et faire en sorte qu'on n'ait plus forcément la même concentration urbaine qui est extrêmement, génératrice de déplacements et de déplacements extrêmement difficiles.
La concentration ou de l'étalement?
Mais la concentration urbaine provoque de l'étalement. Excusez-moi, je vais essayer d'être clair. Ouais. Le fait que vous ayez une grande agglomération fait qu'une grande partie de la population active, elle est repoussée de plus en plus loin.
On gentrifie les centres-villes.
On a parlé tout à l'heure, Monsieur Castagnède a parlé tout à l'heure du rapprochement des lieux de production et des lieux d'habitat. C'est pas évident à faire quand vous avez dans un ménage deux personnes qui n'ont pas le même emploi, qui n'ont pas le même lieu de travail et surtout qui n'ont pas forcément les moyens d'habiter là où elles le souhaiteraient. Donc on a des politiques d'aménagement du territoire à faire. Et puis on a, je crois aussi, des politiques d'accompagnement des populations pour les aider à changer de comportement, à la fois sur la sensibilité qu'ils ont au changement, mais aussi sur les difficultés économiques qu'ils peuvent rencontrer pour changer de véhicule. Ça, on sait assez faire, c'est assez classique, hein. Mais également, probablement, pour changer de... Et puis enfin, des politiques foncières. Et je pense vraiment que si on avait été plus loin, plus vite sur les politiques foncières, ça a été essayé, c'était la loi SRU en 2000, mais elle n'a pas eu les résultats escomptés.
Question d'environnement et question donc sociale également. Merci à tous les deux, Philippe Duron, coprésident de l'association Transport, Développement, Intermodalité, Environnement. Vous êtes ancien maire de Caen, ancien président du conseil régional de Basse-Normandie et aujourd'hui conseiller municipal. Et puis merci à Laurent Castagnède également qui était avec nous, qui a publié l'an dernier aux éditions Éco-Société Hervor ou La face obscure des transports. 8h30.